Sur les indications de Karine Barbour, le couteau est retrouvé chez Christian, un ancien ami de son mari.
Non seulement cette arme correspond à la morphologie des blessures qui ont été constatées sur le corps de Marguerite Lagrave, mais qui plus est, il est encore 12 ans après porteur de l'ADN de Marguerite Lagrave.
Le 27 novembre 2015, cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Ce jour-là, la justice va être rendue à un tout petit village, celui d'Esus, à quelques kilomètres de Pau. Un village où le meurtre mystérieux d'une vieille dame solitaire a alimenté les pires rumeurs. Jusqu'à accuser injustement cette femme et son mari, qui pendant plus de 12 ans ont été pris pour d'abominables criminels.
Ils découvrent le corps de Marguerite.
Qui gît dans une mare de sang avec la gorge qui lui a été transpercée.
Elle a les yeux suppliciés, c'est-à-dire que son agresseur lui a enfoncé les deux doigts dans les yeux. De rumeur en rumeur, on finit par entendre dans ce village que Marguerite avait peut-être des économies.
Elle cochait une sorte de pactole.
L'inspecteur voulait que je dise que c'était mon mari l'assassin.
Dans l'esprit de tout le monde, c'était lui.
Ils écoutaient les rumeurs et ils y croyaient, ils avaient peur.
Et la rumeur, lorsqu'elle s'installe, c'est catastrophique.
12 novembre 2001. Ce matin-là, à Esus, petit paradis perdu au milieu des Pyrénées, personne ne s'attend à vivre un terrible drame. Car il y a quelque chose qui cloche en ce matin d'automne. Les volets de la maison de Marguerite Lagrave restent clos. Et la première à s'en étonner est sa voisine.
Marguerite, dite Margot, a l'habitude d'ouvrir ses volets à partir de 8 heures. Or là, il est 9h, les volets sont fermés.
Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à Margot? Pourquoi ne s'est-elle pas réveillée? Alarmée, une autre habitante d'Esus vient aussi aux nouvelles et les deux voisines, rongées par l'inquiétude, décident d'agir.
Et comme la porte n'est pas fermée à clé, eh bien, elles vont rentrer toutes les deux.
Et au moment d'ouvrir la porte de l'habitation, ils découvrent le corps de Marguerite au pied de l'escalier et quasiment au pas de la porte.
En bas de l'escalier, elles vont voir une scène épouvantable.
Une vieille femme de 78 ans qui est toute petite, toute frêle, 1m50, et qui gît dans une mare de sang avec la gorge qui lui a été transpercée de part en part.
Elle est habillée, elle porte une blouse bleue, elle gît sur le trois quarts sur le côté, avec beaucoup de sang autour d'elle.
Prévenue par les deux voisines, les gendarmes de la brigade locale d'Oloron-Sainte-Marie arrivent les premiers sur les lieux, quelques minutes plus tard. Et d'emblée, un premier élément leur saute aux yeux.
Ils constatent qu'il n'y a pas eu d'effraction. La porte est ouverte.
Pas d'effraction. Mais de toute évidence, le ou les tueurs cherchaient quelque chose.
Quand les gendarmes rentrent dans la maison de Margot Lagrave, ils voient que la maison était dérangée. De fond en comble. La maison était entièrement fouillée.
Les objets ont été déplacés minutieusement sur les étagères. Certains objets sont retournés, les couvercles sont ouverts.
Tout est fouillé, tout, méthodiquement, et on le sait d'une façon extrêmement macabre, puisque la quasi-totalité des objets portent des traces de sang qui sont le sang de Madame Lagrave, ce qui signifie que son agresseur, dont les mains et les gants étaient tachés de sang, a farfouillé absolument partout et a touché absolument à tous les objets.
Mais que cherchait donc le ou les meurtriers? Il est un peu trop tôt pour le savoir. Voici Sonia Degère, c'est la nièce de la victime. Elle n'oubliera pas ce matin d'automne 2001 qui va à jamais bouleverser sa vie.
On était allé boire le café chez une copine avec ma sœur et c'est la femme d'un cousin qui a téléphoné pour nous dire qu'il y avait eu un souci avec Tati et qu'il fallait y aller vite. Donc on est rentré. Et là, il y avait les pompiers qui nous ont empêchés de rentrer, qui n'ont pas voulu qu'on la voie. Après, les gendarmes, ils disent, voilà, pareil. Et en fait, j'ai pas pu la voir. Ni là, ni jamais.
Le premier mot qui venait, c'était de dire, bon, c'était pour la voler. Mais elle n'avait rien. Et puis, on discutait dessus, mais on dit, mais c'est pas possible. C'était de l'incompréhension. De l'incompréhension totale.
On ne sait pas qui a fait, évidemment. Donc, ça peut être n'importe qui. Et s'ils reviennent, ça, on ne sait pas. Ils l'ont fait une fois, ils peuvent recommencer. Donc, c'était quand même terrible. Ouais, tout le monde avait peur.
Un crime dans ce petit village des Us, voilà qui n'est pas banal. Les quelques 600 habitants sont glacés par la nouvelle. L'enquête commence. Vu la gravité des faits, ce sont les gendarmes de la section de recherche de Pau qui seront chargés de l'enquête. Et dans un premier temps, c'est la piste du rôdeur qui semble être privilégiée.
Les enquêteurs, ils ont essayé de regarder, mais toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pu, à cette époque, passer par le village ou passer aux alentours.
En vain. Cependant, les gendarmes vont s'intéresser à un groupe de randonneurs qui sillonnait la région à l'époque des faits.
Les gendarmes apprennent qu'il y avait une marche en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les enquêteurs sont allés jusqu'à les retrouver pour les interroger, pour vérifier donc leur emploi du temps et pour vérifier qu'ils n'étaient pas impliqués dans ce crime.
Tous les marcheurs ont été entendus, ils ont tous des explications à donner et cette piste s'arrête là.
Alors, si ce n'est pas un rôdeur, qui a tué Marguerite Lagrave? Les gendarmes décident d'entendre un par un tous les habitants de ce petit village des Us. Et ces auditions vont porter leurs fruits.
Les gendarmes vont retrouver trois témoins qui tous affirment avoir vu une golfe noire avec un liseré rouge.
Elle a été aperçue par les voisins la veille au soir à l'heure supposée du crime.
Ces trois témoins affirment avoir vu une voiture stationnée à une dizaine de mètres de la maison de Margot, tout phare allumé. Seulement lorsqu'il s'agit de décrire le conducteur, les déclarations des voisins sont beaucoup plus floues.
Ce sont des témoignages dont la fiabilité est sujette à contestation, puisque il y a des couleurs de véhicules qui ne correspondent pas toujours selon les témoins. La silhouette des personnes que l'on aperçoit n'est pas toujours la même.
Certains ont vu une femme, d'autres ont vu un homme. On parle de quelqu'un de forte corpulence. Pour l'un, elle est blonde, pour l'autre, elle est brune.
Dès lors, les gendarmes vont s'attacher à retrouver la voiture à liseré rouge. Tous les propriétaires de ce type de véhicule dans la région sont entendus. Mais force est de constater que chacun d'entre eux a un alibi. La piste de la voiture sombre, au liseré rouge, est abandonnée. Pour le moment. Et c'est l'autopsie qui va venir relancer l'enquête. Au centre hospitalier de Pau, le médecin légiste vient de terminer son rapport. Et d'après lui, le meurtre de Marguerite Lagrave a été d'une violence inouïe.
Il fait état de vertèbres qui ont été sectionnées et d'une plaie au niveau de la gorge qui est extrêmement profonde et qui a été pratiquée avec un couteau tranchant large et de manière très violente.
On va constater également qu'elle a de nombreuses ecchymoses et de nombreuses plaies sur le visage, notamment sur les yeux, et on va trouver quelqu'un qui a de multiples traumatismes.
Ces blessures laissent penser que la vieille dame de 78 ans s'est battue avant de mourir.
Il y a eu une bagarre, très vraisemblablement. Elle a de nombreuses ecchymoses. Elle a le sternum et des côtes cassées. Elle a les yeux suppliciés, c'est-à-dire que son agresseur lui a enfoncé les deux doigts dans les yeux.
On a le sentiment que cet enfoncement des yeux doit signifier quelque chose en termes de volonté de ne pas être vu, de ne pas être reconnu.
Une porte sans trace d'effraction, des yeux suppliciés. Pour les gendarmes, tout porte désormais à croire que le meurtrier savait qui était Marguerite. Et cela va tout changer pour l'enquête. Car cela veut dire que la vieille dame a certainement été tuée par quelqu'un du village. Cela faisait 70 ans que Marguerite vivait ici, à Esus. Alors forcément, tout le monde la connaissait. Pour autant, la vieille dame était un peu sauvage et ne voyait pas grand monde.
Tati ne voyait personne, juste les gens qui passaient devant la maison. Elle ne recevait personne. Elle vivait avec ses souvenirs, mais c'est tout, quoi.
Marguerite Lagrave vivait dans une véritable solitude. On sait qu'elle n'a donc jamais eu d'enfant, qu'elle a toujours été célibataire, mais en fait, on sait très peu de choses sur elle.
Alors, Marguerite pouvait-elle attirer la convoitise de ses voisins ? Tout porte à croire que non. Elle vivait au cœur d'Esus, dans cette petite maison qui semble quelque peu délabrée.
Elle vit dans des conditions qui sont sans doute proches de celles qu'ont connues ses parents et peut-être ses grands-parents, un intérieur extrêmement modeste.
Le sol s'était interbattu. Il y avait les toilettes dehors et pas de salle de bain. Il y avait un robinet d'eau froide, une ampoule électrique, c'est tout, on ne pouvait rien brancher. Et en haut, c'était la chandelle. Elle ne voulait pas de confort. Ses frères voulaient lui mettre le confort, elle n'a jamais voulu.
D'après sa famille, Marguerite n'avait donc pas un sou. Seulement, certains habitants du village d'Esus ne sont pas du tout du même avis.
De rumeur en rumeur, on finit par entendre dans ce village que Marguerite Lagrave avait peut-être des économies, peut-être un bas de laine, parce que ces 3600 francs qu'elle touchait à l'époque de pension, on sait qu'elle dépensait pas tout.
Finalement, affichant un train de vie si modeste, en réalité, elle cochait une sorte de pactole.
Le possible trésor de Marguerite alimente toutes les conversations. Et nombreux sont ceux dans le village qui soupçonnent les membres de la famille de la vieille dame d'en vouloir à son magot. D'ailleurs, les gendarmes ont dans le collimateur un couple. Sonia, la nièce de la victime, et son mari, Bruno. À l'époque du drame, ils avaient des problèmes d'argent. Ils auraient très bien pu éliminer Margot pour éponger leurs dettes.
Ils ont décidé qu'on avait des graves problèmes financiers, qu'on ne pouvait pas acheter avec 3 enfants. Donc ça ne pouvait qu'être nous.
Bruno est ouvrier. Bruno est marié avec Sonia. Et ils ont des difficultés financières. Ils viennent d'acheter une maison. Ils tirent le diable par la queue. Et donc il peut faire figure de suspect.
Et le problème, c'est que Bruno, le mari de Sonia, n'a pas un alibi solide pour le soir du crime. Ce jour-là, il était seul chez lui à faire des travaux de rénovation.
C'est pas un alibi de dire qu'on est chez soi en train de travailler ou de bricoler et que personne ne peut en attester. Ça peut effectivement prêter à une quelconque suspicion.
les gendarmes décident de jouer le tout pour le tout. Ils placent en garde à vue Sonia et Bruno, avec une idée en tête, les faire craquer.
Quand ils me disent maintenant vous êtes en garde à vue, on perquisitionne, il faut que vous soyez là, et après on, voilà, ils m'ont embarqué. Non, mais ça nous tombe sur la tête, monsieur, nous tombe sur la tête, quoi. On ne s'attend pas du tout à ça, nous on n'a rien fait, on n'a rien demandé. Juste avoir la paix. Mais ça, c'est pas possible.
Les enquêteurs pensent que si Bruno est le meurtrier, Sonia est forcément au courant. Ils décident donc de mettre la pression sur son épouse.
L'inspecteur voulait que je dise que c'était mon mari l'assassin. Mais je pouvais pas dire que c'était lui, puisque c'était pas lui. Donc, tout le temps, il revenait là-dessus, mais non.
Face aux gendarmes, Sonia se défend. Pour elle, la théorie du trésor caché de Marguerite est le fruit de l'imagination des mauvaises langues du village.
Il n'y avait pas de trésor dans sa maison. Ma tante vivait avec le Fonds national de solidarité. À l'époque, c'était quoi, 3600 francs. Elle n'avait pas d'argent. Et elle nous rapportait à la limite plus vivante que morte, puisque vivante, il suffisait d'aller la voir et elle nous le donnait. Une fois morte, c'était fini.
Malgré de longues heures d'audition, ni Sonia ni Bruno ne vont craquer. Et ils le jurent, ils n'ont pas tué Marguerite.
Il n'avouera jamais avoir participé à quoi que ce soit. Sa propre femme, Sonia, le défend bec et ongles. A priori, ça colle pas, quoi. Ils l'ont longuement travaillé, comme on dit, hein. Ils ont vraiment cru qu'il tenait le bon gars.
Le couple est relâché. Aucune charge ne sera retenue contre eux.
La victime était tellement pauvre, avait une pension de retraite tellement modique que le mobile lié à l'argent ne tient pas un seul instant.
Mais à Esus, la nouvelle de la garde à vue a fait le tour du village. Aux yeux de tous, Bruno est le meurtrier de Marguerite Lagrave.
Dans l'esprit de tout le monde, c'était lui. Et plus le temps passait, et plus c'était lui. Et il s'en sortait bien. Et la rumeur, lorsqu'elle s'installe, c'est catastrophique.
Il est certain que le fait que les enquêteurs ne trouvent pas le coupable a entretenu l'idée chez certaines personnes, chez certains habitants du village, qu'il s'en était bien tiré.
Il y en a beaucoup dans le village qui ne nous disaient plus bonjour, alors que... Il y en a, je suis du village, moi, enfin, je suis née là, quoi. Donc, tous les anciens me connaissent. Non, ça y est, ils ne disaient plus bonjour, ou c'était des sourires très distants, enfin, je ne comprenais pas. Après, j'ai compris. Et en fait, c'était parce qu'ils avaient mis l'étiquette sur Bruno, tout simplement. C'était l'assassin, et puis voilà. Ils écoutaient les rumeurs, et ils y croyaient. Et donc, ils avaient peur.
Il y a des gamins qui allaient à l'école, des gamins de la famille Lagrave, et dont les camarades les traitaient de fils d'assassins. Ça a été parmi les témoignages, les paroles les plus fortes.
Le poids du soupçon. Sonia et sa famille vont le porter pendant presque 12 ans, sans jamais pouvoir s'en défaire. Cependant, un an après le meurtre de Marguerite Lagrave, le meurtrier court toujours. Pendant des années, les gendarmes de la brigade de recherche de Pau continuent de travailler sur ce dossier sans succès. En septembre 2005, 4 ans après la mort de Margot, faute d'éléments nouveaux, le juge d'instruction décide de prononcer un non-lieu.
Ce crime va rester un cold case dans le village, alimentant évidemment toutes les rumeurs qu'on peut imaginer. Les uns continuent à être persuadés que c'est Bruno, d'autres ont leurs idées aussi là-dessus. La mort de cette femme reste gravée dans les mémoires des villageois.
J'en connais certains qui ont barricadé leur maison, qui ont fait mettre des serrures de poing, etc. Bon, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans l'esprit de quelqu'un qui avait vraiment décidé de passer à l'acte chez cette personne? Je ne sais pas, ça on ne peut pas dire. Mais derrière, ça montre quand même que ça arrivait même chez nous.
Le meurtre de Marguerite Lagrave tombe peu à peu dans les oubliettes judiciaires, alors que son fantôme continue à hanter le village d'Esus. 12 années vont se succéder, jusqu'à un coup de théâtre. Incroyable. Mars 2013, une femme vient se présenter à la gendarmerie de Lacanau, sur la côte atlantique, à 250 km d'Esus. Elle vient déposer plainte.
Une dame s'est présentée à la gendarmerie de Lacanau, en Gironde, pour dénoncer un certain nombre de choses dans un contexte bien particulier de conflit avec son ex-mari.
Cette femme s'appelle Karine Barbour. Elle a 35 ans et elle est coiffeuse. Ce jour-là, elle vient déposer plainte contre son ex-mari Daniel Treille. Selon elle, cet homme se serait montré violent à son encontre. Et la jeune femme se dit en danger.
Alors Karine Barbour va se présenter comme une femme battue, comme une femme qui a subi véritablement pendant toute sa vie maritale la violence de son mari, l'alcoolisation de son mari, et qui a subi, sans rien dire pendant des années, qui a élevé ses enfants, qui est restée à la maison, qui a travaillé et qui s'est retrouvée avec un homme qui la battait régulièrement et avec personne pour l'aider.
Et la mère de famille, devant les gendarmes, va plus loin. Elle va révéler un terrible secret.
Karine Barbour va dire à cette femme gendarme qu'elle est menacée de mort, qu'elle a peur pour sa vie, parce que son mari est un tueur.
Elle sait que son ancien compagnon a commis un crime horrible dans le village d'Esus quelques années auparavant. Et qu'elle sait que c'est lui qui est coupable de ce crime.
Ce jour-là, Karine repart de la gendarmerie de Lacanau, persuadée qu'avec ses révélations, les gendarmes vont s'occuper de son ex-mari, Daniel Treille. Ainsi, elle espère obtenir la garde exclusive de ses enfants. Le 28 mars 2013, le parquet de Pau est aussitôt avisé de ces nouveaux éléments. Le procureur de la République décide alors de rouvrir le dossier Marguerite Lagrave.
Donc moi, je considère que c'est un élément nouveau et que c'est un élément nouveau qui va permettre de reprendre où on les avait laissés en 2005 les investigations sur la mort de Madame Lagrave.
Et aux enquêteurs de la section de recherche de Pau de se replonger dans le dossier Lagrave. Et la surprise, ils vont s'apercevoir que Karine Barbour n'est pas une inconnue.
Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans ce dossier. C'est que Karine Barbour avait été entendue en 2001, au lendemain du crime, parce qu'elle habitait Esus. Et donc, comme tous les habitants d'Esus, elle avait été entendue.
Et si à l'époque, les enquêteurs ont auditionné Karine, c'est parce que la jeune femme possédait une voiture sombre avec un liseré rouge. Comme celle, souvenez-vous, qui avait été aperçue par les voisins à proximité du domicile de Margot Lagrave le soir du meurtre.
On s'aperçoit aussi qu'elle est de forte corpulence puisqu'elle fait 160 kilos.
Un des témoins avait d'ailleurs raconté avoir aperçu au volant de cette voiture une femme de forte corpulence.
Et à l'époque, ça n'avait pas interpellé les gendarmes, ils étaient passés à côté. Au lendemain du crime, ils ont des éléments. Je suis pas capable de vous expliquer comment ils ont pu passer à côté de ça. C'est incompréhensible. Tout était devant leur nez.
Une habitante d'Esus, Karine, avec une morphologie qui ressemble à la description faite par les témoins. Une Golf au liseré rouge. 12 ans après le crime sauvage de Marguerite Lagrave, les éléments du puzzle commencent à se mettre en place. Dans le petit village, tout le monde connaît Karine Barbour et son mari Daniel. Ils vivaient à Isus. Et de la vie de tous, ce couple un peu spécial n'a jamais su s'intégrer à la population.
Lui est décrit comme un ouvrier manutentionnaire. Il est sous curatelle. C'est un homme dont la vie est une existence précaire.
Il faut savoir qu'elle va se marier donc avec Daniel Treille, qui est son premier amour. À 22 ans, elle se marie, elle n'a connu personne d'autre que Daniel Treille. Elle a une personnalité qui donc correspond un tout petit peu à cela, c'est-à-dire quelqu'un qui est recentré sur sa maison, sur son couple, puis ensuite sur ses enfants, et qui n'a pas véritablement de vie sociale à l'extérieur.
En fait, c'est un tyran, cette femme. Elle va le chercher dans le bistrot alors qu'il est avec ses copains en train de boire un coup. Elle le sort manu militari du café quand elle considère qu'il y a passé trop de temps. Elle n'hésite pas à l'assommer à moitié avec un tuyau d'arrosage quand il est avec son voisin à discuter trop longtemps.
En 2001, l'année du drame, Karine et Daniel avaient deux enfants en bas âge. Et à cette époque, le couple était financièrement au bord du gouffre.
On sait que dans les mois qui précédaient les faits, le couple était en proie à des difficultés financières. Karine Barbour dépensait sans compter. Elle était un petit peu la Madame Bovary de la vallée d'Aspe. Hein.
Alors, la rumeur alimentée par les gens du village concernant le bas de laine de Marguerite leur aurait-elle donné des idées? Le trésor de Margot était-il la solution à leurs problèmes? C'est en tout cas pour les enquêteurs le mobile qu'il manquait. En juillet 2013, les gendarmes décident donc de placer sur écoute Karine Barbour. L'objectif? En savoir plus sur cette femme et sur son ex-mari. Et les enquêteurs vont découvrir que les deux anciens amants sont vraisemblablement impliqués dans le crime. Comme en témoigne une conversation téléphonique entre Daniel et Karine.
Elle explique à Treille qu'elle a rendez-vous à la gendarmerie. Elle lui dit, tu sais, pour le meurtre. Donc, on entend mal, mais on sent qu'il y a un moment de recul. Et il dit, ah oui, et quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Elle dit, mais oui, tu sais bien, le meurtre, celui de Margot Lagrave en 2001.
On voit Karine Barbour qui essaye de faire chanter Daniel Treille en lui rappelant de manière, mais en jouant quasiment, avec des mots un peu crus, « Mais tu te souviens, la petite vieille, hein, le meurtre, je vais raconter. »
Et lui a cette réponse extraordinaire. Il lui dit « N'oublie pas que tu étais avec moi et que tu es aussi mouillé que moi. »
Pour les enquêteurs, cela ne fait plus aucun doute. Karine Barbour ne leur a pas tout dit. Et la suite de l'enquête va dresser un portrait de cette mère de famille assoiffée par le désir de vengeance. En effet, les écoutes n'ont pas fini d'étonner les gendarmes.
Il y a deux autres conversations qui ont été interceptées dans le cadre des écoutes téléphoniques. Qui sont très intéressantes pour l'enquête. La première, c'est lorsqu'elle appelle une journaliste de Sud-Ouest en lui disant qu'elle a un scoop.
Cette journaliste, la voici, Elisa Cascara. Elle se souvient parfaitement du jour où Karine Barbour l'a contactée.
Elle voulait me parler d'une très vieille histoire, très vieille affaire qui s'était passée à Isus en 2001, à savoir le meurtre d'une vieille dame. Elle a poursuivi la discussion en m'expliquant qu'elle était elle-même en fait menacée par la personne qui avait commis ce crime, à savoir son ex-mari, qui l'avait visiblement menacée de lui faire la même chose qu'à la vieille.
Karine Barbour explique à la journaliste qu'elle a déjà dénoncé Daniel Treille auprès de la gendarmerie. Sans résultat. C'est pourquoi elle choisit maintenant d'alerter la presse. Et la jeune femme ne va pas s'arrêter là. Elle va également tenter de faire peur à Daniel Treil en le dénonçant pour le meurtre de Marguerite auprès de sa propre famille.
Elle va appeler la mère de son ex-mari, donc la maman de Daniel Treil. Et là, elle se fait passer pour la journaliste de Sud-Ouest, qu'elle vient d'avoir au téléphone d'ailleurs, en lui disant « Voilà, je suis journaliste à Sud-Ouest, j'ai besoin de renseignements concernant votre fils, parce qu'il est mêlé dans une affaire de meurtre à Esus. »
La jeune femme ne sait pas qu'elle est sur écoute. Et elle ne sait pas non plus que les gendarmes enquêtent sur le crime de Marguerite Lagrave. Convaincue que Karine Barbour et Daniel Treil sont impliqués dans les faits, les enquêteurs vont abattre leur dernière carte. Karine est convoquée à la gendarmerie. Encore une fois, elle maintient ses déclarations. Son ex-mari est responsable de la mort de Marguerite Lagrave. Et sans se douter que les enquêteurs la soupçonnent, comme son ex-mari, la jeune femme va fournir aux gendarmes la preuve irréfutable de la culpabilité de Daniel Treil.
Elle va donner des précisions sur l'arme qui était un couteau que le couple possédait, qui avait été acheté en Espagne par elle-même, à titre de cadeau, dit-elle.
C'est une arme qui est de taille assez importante.
Et elle va donner une précision, à savoir que ce couteau a été, après le meurtre, a été offert à un ami par Daniel Treil comme cadeau. Et les gendarmes vont se rendre au domicile de cette personne et vont effectivement retrouver ce couteau.
Sur les indications de Karine Barbour, le couteau est retrouvé chez Christian, un ancien ami de son mari. L'arme est expertisée et les résultats sont sans appel.
Non seulement cette arme correspond à la morphologie des blessures qui ont été constatées sur le corps de Marguerite Lagrave, mais qui plus est, il est encore 12 ans après porteur de l'ADN de Marguerite Lagrave.
C'est quelque chose d'incroyable, c'est qu'on retrouve sur le couteau l'ADN, évidemment du sang de la victime, mais également des traces d'ADN de Daniel Treil. Donc cette arme du crime va permettre de le confondre et de forger, en tout cas chez les enquêteurs, une certitude sur son implication dans le crime.
Le 9 septembre 2013, Daniel Treil est placé en garde à vue. Et immédiatement, l'homme va soulager sa conscience. 12 ans après le crime, il va livrer le récit de cette nuit sanglante de novembre 2001. Celui d'un homme aux abois, poussé à bout par sa propre femme.
Il dit surtout que c'est elle qui lui a dit « Bon, maintenant, on a pas d'argent, il faut faire un casse, on va aller chez Margot. »
Elle va lancer cette idée, elle dit « Il y a de l'argent, je connais une dame qui a de l'argent, on va y aller, il n'y a aucun risque. » Et elle commence à lui mettre cette idée en tête.
Une date est fixée et un scénario se met en place. Le soir du meurtre, le couple accompagné de leurs deux enfants monte dans la Golf noire au liseré rouge. C'est Karine qui est au volant.
Il explique que sa compagne le conduit à proximité du lieu du crime et que les deux enfants sont à l'arrière de la voiture. Visiblement, la présence des deux enfants ne le dissuade en rien.
Dans la voiture, Karine Barbour lui aurait alors ordonné de se munir de gants polaires et de prendre un couteau dans la boîte à gants.
Pourquoi prend-il le couteau ? Il nous explique que c'est Karine qui lui aurait demandé à plusieurs reprises « Prends-le au cas où ».
Daniel Treil nous dit, elle me dit « Tu prends un couteau, on ne sait jamais ». Pour lui, c'est finalement un couteau, ça peut servir à ouvrir une porte qui est fermée.
Et dès qu'il quitte la voiture pour se rendre donc dans la maison de Margot, elle, et c'est là qu'elle va être vue par les trois fameux témoins, elle va remonter avec sa voiture, parce qu'on est dans une impasse, Donc elle va remonter avec la voiture, faire une sorte de demi-tour en haut et se garer à côté de l'école.
De son côté, Daniel Treille raconte qu'il serait entré dans la maison de Marguerite sans la moindre difficulté.
Daniel Treille nous dit que, qu'il est rentré, que la porte était ouverte. Qu'il n'a même pas à la forcer, ce qui est pratique.
Il va se retrouver dans cette pièce qui est vide.
Si l'on en croit ses déclarations, Daniel Treille va alors commencer à fouiller les pièces du rez-de-chaussée à la recherche du trésor de Marguerite. Seulement les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu.
Il va entendre du bruit à l'étage. Et très vite, il va se retrouver, alors qu'il est dans cette pièce, il va se retrouver avec Marguerite Lagrave qui descend. Il y a un petit escalier et qui est dans l'escalier face à lui. Et là, il va se retrouver en panique complète.
Il va essayer de s'enfuir. Ça va paniquer, il va y avoir une lutte, et puis à l'occasion de cette lutte, alors que manifestement, il doit avoir le dessus sur cette femme qui est âgée de près de 80 ans, alors que lui en a une trentaine.
Il s'est fait empoigner et il est tombé sur la victime en lui assénant, en lui portant le coup de couteau de manière involontaire. Donc lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il a porté un coup involontaire, que le coup est parti tout seul et qu'il ne l'a pas maîtrisé.
Alors Daniel Treille va se retrouver sur Marguerite Lagrave et effectivement il va constater qu'elle est morte.
Dans les locaux de la gendarmerie, Daniel Treille ne peut expliquer pourquoi, à ce moment-là, alors que Marguerite gît au milieu d'une mare de sang, il continue sa basse besogne.
Il va se relever, et là, je crois que ce qui reprend le dessus, c'est finalement l'emprise de Karine Barbour, parce qu'il va dire « il faut que je ramène quelque chose ». C'est ce qu'il dit « il faut que je ramène l'argent, il faut que je ramène ce qu'il fallait que je ramène ». Et il va fouiller la maison, et notamment l'étage, il va monter à l'étage, et il va fouiller les tiroirs, il va fouiller les meubles, et on va retrouver effectivement des traces de sang, sur le mobilier ou sur le sol de la maison de Marguerite.
Mais voilà, Daniel Treille dit ne pas avoir trouvé l'argent de Marguerite.
Alors Daniel Treille sort de la maison, retrouve Karine Barbour et tout de suite lui dit il lui explique en deux mots, il lui dit j'ai rien et elle est morte, je l'ai tuée, elle m'a surpris, je l'ai tuée.
Et là, elle lui aurait répondu « T'inquiète pas, tu dis rien, je m'occupe de tout. » Ils sont rentrés chez eux. Le lendemain matin, ils vont se débarrasser à la fois des gants en polaire, enfin de tout ce qu'il avait sur lui pour commettre ce cambriolage. Ils vont à la déchetterie du coin. Et le couteau, l'arme du crime, ils vont l'offrir à leur ami Christian.
Le couple aurait ensuite laissé passer les mois et les années sans éveiller aucun soupçon. Le 11 septembre 2013, Daniel Treille est mis en examen pour meurtre. Le lendemain, Karine Barbour est poursuivie pour complicité de tentative de vol avec arme. Tous les deux sont incarcérés à la maison d'arrêt de Pau.
Ce qu'on retient, c'est que c'est aussi incroyable que ça puisse paraître, ça aurait pu être le crime parfait sans le faire exprès.
Dans le village d'Esus, des bruits circulent. Le meurtrier de Margot aurait enfin été arrêté. Et contre toute attente, ce n'est pas Bruno ou Sonia que beaucoup soupçonnaient. Mais tout le village est stupéfait d'apprendre que le meurtrier et sa complice était néanmoins connu de tous.
Au départ, on n'y croit pas. Tout à fait, la première réaction, c'est pas possible. Parce qu'en plus, ils ont vécu pendant, pas 12 ans, puisqu'ils se sont séparés avant, mais ils ont vécu au moins 5-6 ans après, au milieu de tout le monde, et bonjour, bonsoir. Non, jamais, non, on disait pas possible.
Nous, on a su le 13 septembre, je crois que c'était. C'est Bruno qui m'a appelé, je suis partie au boulot. Il me dit, ils ont trouvé les assassins de ta tante. C'est dans le journal. Oh. J'ai fait demi-tour, j'ai dit tant pis, même si je suis en retard. Je vais me chercher le journal. Et donc là, j'étais sous le choc toute la journée.
Si Sonia est soulagée, elle est toutefois perplexe face à l'hypothèse du cambriolage qui aurait mal tourné. Car elle connaissait les habitudes de Margot. Et il y a quelque chose qui cloche dans le récit du meurtrier.
Que ma tante n'ait pas fermé sa porte, ce n'est pas possible. La porte devait être fermée. À mon avis, c'était fermé. Par contre, quand on y allait, quand on tapait, elle demandait qui c'était et elle ouvrait la fenêtre. Elle ouvrait les volets, elle ouvrait la fenêtre, regardait, refermait et elle allait ouvrir la porte. Donc pour moi, il s'est présenté. Après, je ne sais pas, je n'étais pas avec lui, mais pour moi, il s'est présenté. Il n'y a pas de trace d'effraction parce qu'elle a ouvert la porte.
Cette thèse du cambriolage qui tourne mal, c'est de la foutaise. N'oubliez pas qu'il vient à visage découvert. Il n'est pas cagoulé. Il a sans doute pris des gants pour ne pas laisser d'empreintes, mais il n'est pas cagoulé. Or, imaginez qu'il tombe nez à nez avec elle, ce qui était un scénario prévisible à 99,99%. Prendrait-il le risque, alors qu'il l'a déjà croisé, prendrait-il le risque d'être dénoncé par cette petite mamie ?
Daniel Treille essaye-t-il de minimiser son acte ? Avait-il en fait l'intention d'éliminer Marguerite ? Quel était le plan qu'il avait élaboré avec Karine Barbour ? Toujours est-il que face au juge d'instruction, Daniel Treille maintiendra ses déclarations. Le procès de Karine Barbour et Daniel Treille s'ouvre le 27 novembre 2015 devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Les habitants du petit village d'Esus se sont déplacés pour l'occasion.
Vous aviez tout un village, toute une vallée qui assistait, et toute une famille bien évidemment, mais qui assistait au procès, parce qu'on sent qu'il y a eu une sorte de délivrance, de voir enfin les véritables coupables identifiés et poursuivis, jugés. Donc je crois que ça, les habitants en avaient besoin quelque part pour tourner la page et pour retourner à une vie normale.
Pour Sonia, celle qui au départ a été accusée, ce procès est une délivrance.
Il n'y a plus d'angoisse, demain j'irai en prison, parce que demain, on ne peut pas nous dire que c'est nous, non, c'est pas nous. Non, non. Pour cette affaire-là, non, c'est fini. Mais après, on se dit qu'avec une rumeur, on y est vite.
Dans le box des accusés, Karine et Daniel Treille n'ont plus aucun regard l'un pour l'autre.
C'est un procès qui s'annonce difficile parce que on a bien l'impression qu'il va y avoir des rapports de force très, très tendus entre les deux accusés. Le couple s'est complètement disloqué.
Karine Barbour et Daniel Treille ne se parlent pas, ils n'échangent pas un mot. On sent qu'il y a un froid glacial. C'est sûr que c'était quelque chose d'assez impressionnant de les voir ne pas échanger un regard, ne pas échanger une parole, et de les voir braquer l'un contre l'autre, mais en même temps avec leur destin scellé pendant la cour d'assises.
On avait encore devant nous et Daniel Treille, et Karine Barbour, et ce fameux troisième personnage qui était le couple qu'ils formaient, c'était le couple assez mystérieux.
Face aux jurés, Karine Barbour et Daniel Treille vont camper sur leur position.
Karine Barbour, elle s'exprime facilement, et elle s'exprime peut-être d'autant plus facilement que Daniel Treille s'exprime difficilement et peu. Au cours du procès, elle reste sur la ligne qui a été la sienne. Son mari était un alcoolique invétéré pendant le temps de leur mariage. Il était parfois violent. Elle était plutôt soumise et faisait ce qu'on lui demandait de faire. Et ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, tout le dossier dit le contraire. Mais elle s'est tenue à cette version.
Le procès de Karine Barbour et Daniel Treille prend fin le 1er décembre 2015. Au terme d'un délibéré de 2 heures, les jurés rendent leur verdict. Daniel Treille est condamné à 20 ans de prison pour meurtre. Karine Barbour écope de 13 ans pour complicité de tentative de vol.
Pour moi, le meurtre d'Esus, et au vu de ce qui s'est passé pendant tout le procès, c'est un crime gratuit commis par des gens qui ont cru qu'ils allaient trouver un magot chez la personne mais la plus humble, la plus modeste et la plus pauvre de tout le village. Donc c'est quelque chose d'absolument gratuit, idiot et bête.
Karine Barbour et le parquet font immédiatement appel de la décision. Il y aura donc un nouveau procès. À Esus, pour Sonia.